Ok. Eh bien, en fait, avant de commencer, je voudrais relire l'édito. Je voudrais relire l'édito justement pour ceux qui nous ont joints, qui n'ont pas forcément lu l'édito, afin que tout le monde commence à la même longueur d'onde. Lorsque l'être humain touche les abysses, parfois lumineuses, de ses pensées, il rentre dans le domaine du rêve. Un domaine différent dans lequel logique et raisonnement ne peuvent exister, quoique. Les rêves sont des messagers de l'inconnu. Ce sont les voix de notre subconscient collectif, des avertisseurs de perturbations intérieures, profondes dans la psyché individuelle, porteurs de bonnes nouvelles à venir. Ou échos de souvenirs heureux ou tristes et de souvenirs longtemps cachés. La phrase que je viens de vous lire, c'est une phrase qui a été dite par un docteur franco-libanais de religion islamique. C'est un docteur qui est de base spécialisé dans la modernité, qui est spécialisé aussi dans comment peut-on faire pour que la religion musulmane, s'adapte à la société actuelle. Mais c'est aussi un auteur qui a longtemps travaillé sur l'interprétation des rêves, notamment en faisant une thèse sur justement un autre auteur qui s'appelait Ibn Sirin. Ibn Sirin, qui traduit en français, ça fait le fils de Sirin, qui lui est considéré comme le plus grand interprète de tous les temps des rêves, en tout cas dans la religion musulmane. Alors, avant aussi de commencer, j'aimerais... Ah, ouais.
C'était le micro dilote, c'est bon, il l'a coupé.
Ok. Okay. Alors, avant aussi de commencer, j'aimerais préciser un peu mon profil. Moi, personnellement, ça fait maintenant aux environs de 14 ans que je fais de la religion, enfin que je fais des cours d'éducation islamique, en tout cas dans mon lycée. On a chacun nos spécialités en fait. En tant qu'étudiant, je fais généralement de la philosophie, je fais notamment de la logique, de la finance islamique, mais aussi de la sorcellerie et de tout ce qui tourne autour, autour des possessions démoniaques. Et pour finir, de la religion comparée. L'interprétation des rêves n'est pas ma spécialité en temps normal, mais c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. J'ai lu plusieurs livres à travers ça et donc je me sens à peu près à faire une certaine présentation justement de ce domaine-là. N'hésitez pas à utiliser des smileys que Melk a envoyés sur le chat si jamais vous voulez m'interrompre ou bien si jamais vous pouvez poser une question à la fin. Et je le rappelle, bon, les voix IP étant bloquées dans mon pays, si jamais vous ne m'entendez pas, pingez-moi sur le chat, je me déconnecterai et je me reconnecterai. On peut donc commencer. Mais d'abord... Il faudrait affirmer, en fait, il faudrait qu'on réalise que notre esprit est capable de s'étendre vers des horizons qui sont infinis. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que seul Dieu sait ce que l'esprit humain peut imaginer ou quelle interprétation exacte correspond réellement à son rêve. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les interprétations que je risque de faire aujourd'hui ou dans les interprétations que vous risquez de faire dans le futur avec la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, avec les méthodes dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont on ne peut être certain. C'est une science, mais ce n'est pas une science certaine, en tout cas dans la religion. L'interprétation des éléments contenus dans notre présentation, et notamment les éléments contenus dans le livre que je vous enverrai à la fin, reste étroitement fonctionnelle et satisfera très certainement la quête initiale de l'interprétation de son rêve. Cependant, il faut que vous gardiez en tête que l'explication finale et l'assemblage des éléments doivent être fournis par un interprète des rêves averti, un érudit ou d'un véritable cheikh, c'est-à-dire un savant, en tout cas d'après la religion musulmane. Alors voilà, un interprète de rêve, il étudie d'abord la nature humaine à travers sa propre perception. Il interprète les éléments qui l'entourent. Les attributs que j'utiliserai d'ailleurs dans le dictionnaire, enfin les attributs qui seront utilisés dans le dictionnaire que je vous enverrai et que j'utiliserai dans cette présentation, d'ailleurs je précise, n'ont pas pour but de dépeindre qui que ce soit, bien qu'un examen approfondi du personnage acteur au sein de chaque élément puisse dépeindre certaines caractéristiques ou illustrer une compréhension culturelle, sociale ou spirituelle commune qui peut affecter les vues, les connaissances aussi et le jugement de la société. Par ailleurs, vous allez également l'apercevoir, la philosophie domine également les points de vue et les valeurs des choses. Je vais vous donner un petit exemple. Vendre quelque chose dans un rêve, vous savez, l'action de vendre quelque chose, par exemple, à quelqu'un d'autre, signifie donner une préférence et une valeur à quelque chose ou être dans le besoin d'une marchandise. Ça ne veut pas juste dire je vous vends ma bouteille d'eau à 2 euros, 5 euros. Et dans ce cas-là, si ce que l'on vend en rêve est matériel, la préférence est donnée à ses avantages dans l'au-delà. C'est-à-dire, si jamais je vous vends un objet, on ne va pas penser justement à ses avantages dans le monde actuel, mais dans le monde de l'au-delà. Vendre dans un rêve signifiait également échanger ou troquer en fait une condition contre une autre. Parce qu'au final, la vente, c'est quoi? C'est un échange, c'est un troc contre une valeur monétaire. Et dans les traditions intérieures orientales, vendre signifie se séparer. Donc, en fait, dans un rêve, l'acheteur représente le vendeur et le vendeur représente l'acheteur. Alors, je précise également, peut-être qu'il y a des non-croyants parmi nous aujourd'hui, ça pose aucun problème. Je parlerai parfois de l'au-delà, etc. Mais je pense qu'il est intéressant parfois de se dire que on va plonger dans le domaine du subconscient, dans le domaine éventuellement du fantastique pour ceux qui ne croient pas. Et ça va être quelque chose qui peut être intéressant et peut-être dans une démarche d'ouverture à d'autres cultures nous apporterait en fait de nouvelles connaissances. J'ajoute également en fait que le principe relatif à l'interprétation de chaque élément doit être réaliste et fonctionnel. Les points de vue communs d'ailleurs dans l'interprétation de chacun des éléments de ma présentation vont sembler avoir été pris du point de vue de chaque élément lui-même. Je vais parler parfois de l'essence même d'un élément. Voici un exemple typique. Supposons un moustique qui suce le sang d'une personne. Eh bien, il peut se sentir fort à ce moment-là, et peut-être en bonne santé grâce au sang qui coule dans ses veines. Cependant, en réalité, son échelle n'est peut-être pas à la hauteur de la créature dont il suce le sang, et au final, c'est qu'une victime en quelque sorte. C'était qu'un moustique par rapport à un humain qui est 3 fois plus grand, enfin 30 fois, 300 fois plus grand, et qui pourrait, avec seulement son pied, l'écraser. Mais dans cette situation-là, nous ne parlerons que du moustique et du point de vue du moustique. Alors voilà. L'imagerie orientale de ces interprétations apporte beauté et éloquence, en tout cas de mon point de vue. La perception culturelle et spirituelle de ces éléments, elle représente en fait la clarté du voyant et de l'interprète. Il faut noter ici que les noms originaux des choses provenaient de leur fonction et de leur description. Pourquoi? Parce qu'il existe également une attitude philosophique dans l'interprétation des rêves comme expliqué avant, comme la comparaison de grosses pommes avec de petites pommes, d'un oiseau avec un avion, d'une baleine avec un sous-marin, ou de la terre avec une mer, etc., etc. Un petit exemple, dans les traditions intérieures islamiques, le Coran est perçu comme un beau jardin lorsqu'on le regarde. Ces versets sont les fruits de la connaissance et de la sagesse que le lecteur peut cueillir ou les perles qu'il peut récolter. D'ailleurs, les Arabes appellent un jardin dont le propriétaire n'est pas connu un Jannah, qui est aussi le terme utilisé pour signifier paradis, son confort et sa félicité. En arabe, le terme Jannah a aussi la connotation de quelque chose qui est caché ou invisible à l'œil nu, ce qui correspond également au paradis. Et toujours dans cette démarche philosophique, il faut savoir que dans un rêve, par exemple, les dattes, vous savez, la nourriture que l'on mange généralement, par exemple nous les musulmans, que l'on mange quand on veut casser le jeûne du Ramadan, bah, dans un rêve, les dattes sont comme de l'argent. Pourquoi est-ce qu'elles sont comme de l'argent? Parce qu'elles n'ont pas une longue durée de vie. Pareil pour l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose qui va toujours bouger entre les mains, etc. Et c'est quelque chose qui, au final, n'a pas une longue durée de vie parce qu'on va la dépenser, enfin, on va le dépenser très rapidement. Et donc, voici par exemple la signification des dattes. Mais l'interprétation allégorique d'une mosquée, également, lorsqu'elle est comprise comme désignant le souverain d'un pays, signifie le temps. Un petit exemple, hein, ces lumières de la mosquée représentent la noble suite et les sages de son époque. De la même manière qu'on dit le siècle des Lumières, par exemple, en français, quand on veut parler du siècle des grands écrivains, en tout cas en Europe occidentale. Le plafond de la mosquée représenterait, par exemple, la connaissance contenue dans les livres qu'il utilise pour appliquer la justice. Par il, j'entends le souverain, non pas Dieu, mais le souverain de ce territoire, par exemple. Et le minaret représenterait son ministre principal ou son conseiller, parce qu'il serait là pour appeler notamment les croyants, mais c'est là aussi pour donner, pour faire des annonces en quelque sorte, et c'est généralement le ministre principal qui va faire ses annonces, un peu comme notre cher Jean Castex fait ses annonces à chaque fois. La chaire représente son serviteur, les gens qui viennent justement faire la prière représentent les serviteurs des souverains. La niche de prière, vous savez, c'est l'endroit où se place l'imam. L'imam, qui par définition veut dire celui qui guide la prière, représente la femme, ou bien ses revenus légitimes, ou encore une femme juste et chaste. Alors, vous vous avez peut-être demandé pourquoi une femme, parce que c'est là-bas que se met l'imam en fait qui guide, et on dit souvent que c'est la femme qui guide son homme, d'où le fait que on dit que ça représente une femme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de. Ok, voilà. Pour bien comprendre son rêve, il est très très utile d'identifier une perception universelle des choses et d'y reconnaître les qualités humaines. Vous savez, moi je dis souvent à mes amis, quand vous faites quelque chose, ne le faites pas juste parce que c'est écrit dans la religion, essayez d'y donner un aspect personnel. Essayez d'y donner un aspect qui vous-même, quelque chose qui vous touche vous-même. Je vais vous donner un exemple tout bête. Oui, alors Gizmo est derrière un grand homme, se cache une grande femme, effectivement. Je vais vous donner un exemple tout bête de justement qu'est-ce que j'entends par essayer de vous donner des raisons personnelles. Moi personnellement, bon, je pense que vous l'avez deviné, je suis musulman, et quand je fais le ramadan, alors certes, il a tout l'aspect religieux, etc. Mais je me dis aussi, et c'est ça ma raison principale, malgré le fait que je dis souvent que je le fais pour Dieu, etc. Ma raison principale, c'est que c'est pour mon bien-être. J'ai besoin de maigrir, je suis en surpoids, j'en profite justement pour faire un régime. Alors vraiment, il faut se dire qu'il faut prendre des raisons toutes bêtes, des raisons toutes réelles, par contre, c'est quelque chose qui est terre à terre. Et du coup, voilà, il faut essayer d'y reconnaître des qualités humaines ou bien des raisons humaines derrière. La conception culturelle au cours de l'histoire de l'humanité peut aujourd'hui influencer la perception des choses. Vous savez, les valeurs morales ont également beaucoup évolué. Par exemple, dans les traditions occidentales contemporaines, un pigeon représente un imbécile, une dupe ou une victime. Quand on voit quelqu'un acheter un iPhone, par exemple, on traite souvent de pigeon. Bon, je vous avoue que moi j'ai un iPhone aussi, mais je ne pense pas d'être un pigeon parce que j'adore ce téléphone-là, mais bon. Alors que dans la compréhension et l'évaluation originale en fait d'un pigeon, il signifiait un messager digne de confiance. Le pigeon, de base, c'était celui qui nous transmettait les messages. Vous savez, quand on parle du pigeon voyageur, c'est l'ami sincère, c'est le bien-aimé réconfortant, ou bien c'est aussi une épouse chaste dans les traditions plus orientales. Il y a bien évidemment un très très gros changement et beaucoup de différences hein, de normes morales. L'exemple du pigeon nous le montre bien. D'ailleurs, il fut un temps où la piété signifiait quelque chose de précieux, alors que dans les cultures d'aujourd'hui, les normes morales se sont dégradées et, en dehors d'une signification religieuse, la piété ne connote plus forcément la droiture, la dévotion, la fidélité et l'allégeance ou la loyauté, etc. etc. En tout cas, de mon point de vue personnel. Alors, je vérifie que personne n'a envoyé de chat. Alors, question de Vincent Boulanger. Quel est le rapport entre la signification de pigeon et la norme morale? Alors, plus que norme morale, en fait, c'est plus pour parler des normes de jugement, en fait, des normes de la perception des choses. J'ai utilisé le pigeon justement pour donner un exemple. Actuellement, quand on dit de quelqu'un qu'il est un pigeon, c'est pour dire surtout que cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'est fait arnaquer en quelque sorte. C'est entre guillemets un idiot. Alors que traditionnellement, en tout cas dans la société orientale, quand on parlait du pigeon, on parlait de quelqu'un de fidèle. Pourquoi? Parce qu'on faisait référence en fait au pigeon voyageur. Et c'était quelqu'un qui pouvait nous transmettre un message de manière fiable et de manière secrète et qui n'allait pas le dire aux autres en fait. C'est pour ça, en tout cas dans les traditions orientales, je pense qu'il en est à peu près de même en Europe où on a aussi cette notion du pigeon voyageur. La notion de pigeon en tant qu'abruti qui s'est fait arnaquer n'est venue que très tard en fait dans l'histoire et c'était pas une notion qui existait avant, surtout que c'était encore une fois plutôt un animal de confiance, un animal auquel justement on prêtait des messages pour les faire passer. Alors je ne sais pas si ça répond à ta question, si oui tant mieux, sinon tu peux essayer de la reposer, je vais continuer, je te répondrai juste après. Alors l'interprétation des rêves, en tout cas dans l'islam, elle exige de vastes connaissances. Elle existe également une perception claire et une grande sensibilité. Une sensibilité dans le sens, justement, des sens. Celui qui n'a pas une grande sensibilité, c'est lui qui n'a pas cette capacité, justement, à essayer d'entendre, à essayer d'écouter, de sentir et de voir. On ne peut le considérer comme un bel interprète des rêves. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des aveugles, etc. Les aveugles peuvent également interpréter des rêves, mais ce qu'on dit, c'est que c'est à peu près normal. Leur interprétation des rêves sera peut-être un peu moindre par rapport à d'autres interprètes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas accès à tous les vastes sens qu'on pourrait accéder. Ces connaissances, elles doivent s'appuyer sur les fondements de sa religion, peu importe si c'est l'islam ou autre chose. Ses valeurs spirituelles intérieures. J'aime bien définir la spiritualité par la religion du soi. Hein, donc ma spiritualité n'est pas l'islam.
Zach, on ne t'entend plus, ça a coupé.
Ok, je suis de retour. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je me suis arrêté?
Oui, tu disais que ta spiritualité n'était pas
Ok,
l'islam, et après ça a coupé.
voilà. Alors, ouais, alors ce que je disais, c'est que la spiritualité n'est pas forcément l'islam, ça peut être une doctrine philosophique. Par contre, ma religion l'est. C'est ça la différence à faire, c'est que je considère, en tout cas là, quand j'utilise le mot spirituel, que c'est une différence avec le mot religion. On parle souvent de la religion comme étant une démarche spirituelle. Je parle de la religion comme étant une démarche religieuse. Je fais une tautologie. Je pense que la religion se définit par elle-même. Et la spiritualité, c'est quelque chose d'autre. En tout cas, c'est comme ça que je vais le définir lors de ma présentation. Et donc, pour reprendre là où j'en étais, les connaissances doivent s'appuyer sur les fondements de la religion, les valeurs spirituelles intérieures, les traditions morales et culturelles. Le débutant dans le domaine de l'interprétation des rêves doit savoir qu'il existe deux types de rêves, en tout cas selon l'islam. Un type qui vient de Dieu et un autre qui vient de Satan. Ce qui est bon, logiquement, vient de Dieu et c'est un type de révélation qui vient d'une personne juste et qui porte soit des nouvelles heureuses, soit des avertissements. De tels rêves amènent également le cœur d'une personne à réfléchir à ses actions et à prendre garde à l'insouciance. D'autre part, il peut s'agir aussi d'une réprimande pour un acte ignoble auquel on réfléchit, ou d'un acte que l'on pense à tort être la bonne chose à faire. Il arrive souvent, en tout cas de mon vivant, que je me dis demain soir, je vais faire ça, par exemple, pour essayer de réussir à atteindre cet objectif. Et au final, je rêve de quelque chose et je me dis, bah, ce n'est pas la bonne solution, hein. C'est un peu comme quand on dit la nuit porte conseil. Bah, c'est à peu près la même philosophie derrière. Et donc, ça peut aussi être une nouvelle amitié, par exemple. Enfin, on peut aussi rêver d'une nouvelle amitié qui pourrait le conduire à de mauvaises choses, comme aux flammes de l'enfer, ou d'un éclaircissement sur la façon dont il traite sa famille et ses amis et sur ses affaires. Typiquement, il arrive, en tout cas dans l'islam, que certaines personnes vont rêver, en fait, et vont se voir elles-mêmes à l'intérieur de leurs rêves, et vont se dire, ah, regardez, c'est comme ça que je traite ma famille, par exemple. Un enfant qui n'aurait pas de respect pour ses parents se verrait dans son rêve en train d'être irrespectueux envers ses parents. Et c'est une manière de prendre du recul quand on n'est pas assez mature pour le faire soi-même. Et quand c'est le cas, en quelque sorte, c'est Dieu qui va nous aider à prendre du recul et à essayer de se dire, ah bah, il y a un petit problème, il faudrait que j'essaie de changer. D'ailleurs, c'est ce type de rêve qui est mentionné dans les paroles du prophète. Qui dit un rêve vrai représente l'une des 46 branches d'une prophétie. Alors, quelles sont les 46 branches de la prophétie, vous vous demandez sûrement. En gros, c'est les signes de la fin du monde, et parmi les signes de la fin du monde, en tout cas dans l'islam, on parle aussi par exemple de quand les enfants arrêteront de respecter leurs parents. Et voilà, quoi, c'est un des signes mineurs de la fin du monde, islamiquement parlant. Et justement, les rêves représentent souvent ces signes-là, et souvent ce sont des avertissements sur ce qui va arriver après. Je précise d'ailleurs, tant les personnes religieuses qu'irreligieuses peuvent avoir un rêve vrai qui pourrait se réaliser. Donc, tant les non-croyants que les croyants, ils sont égaux dans cette situation-là. Ils peuvent avoir des mauvais rêves comme ils peuvent avoir des vrais rêves. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans l'islam. Alors, le deuxième type de rêve, c'est-à-dire le rêve qui vient de Satan, évoque la tromperie, la ruse, l'intrigue, la jalousie, la peur, la douleur, l'écoute indiscrète, les murons des oreilles, comme on dit, les conversations banales, l'appel de l'esprit et des désirs ou l'imagination, ou encore le fait de manger un repas tardif copieux ou de se coucher affamé. Ça peut être, encore une fois, quelque chose qui appartient à un grand spectre d'interprétation, d'une mort au fait d'avoir faim, de sa femme ou de son mari qui trompe, au fait, par exemple, qu'on a envie d'avoir une relation sexuelle, typiquement. Ce type de rêve, il vient de Satan. Le prophète a d'ailleurs dit, lorsque le temps se rapproche de la fin du monde, les rêves deviennent confus, les rêves les plus vrais sont ceux d'une personne véridique. Ainsi, si quelqu'un voit un rêve qui lui déplaît, il ne doit pas en parler à personne. Il doit immédiatement quitter son lit et accomplir ses prières. Il a également dit, d'ailleurs, le meilleur des rêves est la constance dans la vie religieuse. La première citation que je viens de vous dire est un hadith qui est disponible dans le livre de Sahih Bukhari, qui représente justement, enfin qui recueille les actions et les dires du prophète. La deuxième dans Sahih Muslim et aussi dans Sahih Bukhari, je pourrais vous envoyer les références après. Alors, certains interprètes de rêves expliquent que les rêves sont de trois types. Là, on vous a parlé de deux types, mais on a certains interprètes qui sont en train de débattre justement ce nombre-là et qui précisent qu'ils sont de trois types. D'abord, les bonnes nouvelles de Dieu, et c'est ce qu'on appelle un vrai rêve. Les avertissements de Satan, ce type-là représente les rêves faux et troubles. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote, un homme vient entre les prophètes de Dieu un jour et lui dit Oh, messager de Dieu, j'ai vu ma tête rouler devant moi, et je me suis vu courir après elle et la chercher dans le rêve. Le prophète de Dieu lui répond, ne parle pas des chicaneries de Satan. Pourquoi? Parce qu'en gros, il ne faut pas parler de ses mauvais rêves. Alors, ce n'est pas une question de dangerosité, mais c'est pour faire en sorte que les autres ne subissent pas le sort d'avoir de mauvais rêves. Vous savez, généralement, quand on regarde un film d'horreur ou quand on parle de quelque chose qui nous fait un film d'horreur ou quand on parle de quelque chose qui nous fait peur, eh bien, on se retrouve justement à avoir fait un cauchemar juste après. Et donc, bah là, c'est pareil, on ne dit pas ses rêves pour éviter que les autres en font de mauvais aussi. La troisième catégorie comprend les rêves qui reflètent les pensées personnelles de chacun. On peut se voir assis avec sa bien-aimée, par exemple, ou si l'on a peur de quelque chose, on peut le voir en rêve. Ou si l'on se couche affamé, on peut se voir vomir, on peut se voir manger. Et si l'on dort sous le soleil, on peut se voir brûler dans les flammes de l'enfer. Et si on a une maladie, on peut se voir en rêve souffrir ou être torturé, etc.
Coupé. Ça a coupé. Ou alors c'est moi qui déconne.
Ouais, ça a recoupé, il va revenir.
Ok, alors si quelqu'un peut juste me rappeler où est-ce que je me suis arrêté.
Okay. Sur le troisième type de rêve.
Ok. Alors, le troisième type de rêve, la troisième catégorie, comprend les rêves qui reflètent les pensées personnelles de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve qui est donné ni par Dieu ni par Satan, enfin ni même que si tu es malade, ok. Alors je vais quand même répéter. On peut se voir assis encore une fois avec sa bien-aimée, ou si on a peur de quelque chose, on peut le voir dans le rêve. Si on se couche affamé, on peut se voir manger ou vomir. Et si on dort sous un soleil, on peut se voir en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Et si on a une maladie, on peut se voir en rêve souffrir ou être torturé, etc., etc. Et généralement aussi, c'est ce qui fait, en tout cas dans le domaine du rêve islamique, c'était aussi l'interprétation qu'on donne, vous savez, quand on a l'impression d'être fixé ou que quelqu'un s'assied sur nous lorsqu'on rêve et qu'on est immobile. Alors, il y a une autre interprétation à cela aussi que je vous expliquerai à la fin, qui touche par exemple les possessions démoniaques, qui est un peu plus ésotérique, un peu plus compliqué, un peu plus complexe à comprendre, et qui est un peu moins connu parce que c'est un domaine qui est vraiment très très précis. Et quand on tombe dans le vide? Alors, je vais l'expliquer juste après. Quand on tombe dans le vide, je vais justement parler de là maintenant les rêves de Satan, et je vais en parler. Alors, je vous ai parlé de trois types principaux, donc les rêves de Dieu, les rêves de Satan et les rêves principaux. Et maintenant, les rêves personnels, désolé. Et maintenant, je vais approfondir sur les rêves de Satan et je vais aussi répondre justement à la question de Black Jason. Le premier, ce sont les rêves confus. Donc, dans la deuxième catégorie, les rêves de Satan, on trouve d'abord les rêves confus. Ce sont les rêves qui sont causés par la détresse, les espoirs exagérés et les pensées personnelles. Les interprètes islamiques mettent généralement le fait de tomber dans le vide dans cette catégorie-là, en disant typiquement que c'est un signe de dépression parce qu'on tombe dans un vide comme notre esprit est vide. On essaie de chercher, mais au final, on n'arrive jamais à trouver ce qui nous satisfait et on se retrouve à toujours dans une démarche d'effort. Une démarche en fait qui vise à se casser la tête pour au final ne jamais rien trouver, et c'est la sensation de tomber dans un vide. On commence haut et puis après on tombe parce qu'on n'arrive pas à trouver en fait la réponse à notre question. Le deuxième type représente les rêves sexuels qui exigent que l'on fasse une ablution rituelle qu'on appelle le roussoul, qui se termine notamment par l'éjaculation et qui n'ont aucune interprétation. je tombe dans la vie depuis 1700. Alors malheureusement, il faudrait peut-être essayer de trouver une réponse à cela. Il y a d'autres interprétations que je pourrais te donner éventuellement. Il faut que je regarde le dictionnaire parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais oui, pas de souci. Je verrai, on en parlera à la fin si tu veux. Donc bon, le deuxième type sont les rêves sexuels qui mènent notamment à l'éjaculation lors de la nuit. Le troisième type représente les avertissements de Satan ou les rêves effrayants qui se terminent par une situation sans issue. En gros, c'est quoi? C'est quand on se réveille d'un coup. Et généralement, les philosophes, en fait, les interprètes des rêves qui ne sont pas musulmans considèrent ce type de rêve comme étant proche de ceux qui disent, vous savez, on ne peut pas se voir mourir dans un rêve et c'est pour ça qu'on se réveille d'un coup. Et ben là, c'est à peu près la même chose, hein. C'est une situation qui se termine sans issue, sauf le réveil. Le quatrième type représente les rêves qui sont motivés par la sorcellerie des esprits djinns ou leurs illusions et ils sont jugés comme vains. Alors, ce type de rêve-là, en fait, il est aussi à l'origine, comme je vous l'ai dit, je vous en ai parlé juste avant, du fait que parfois on n'arrive pas à bouger, à bouger lorsqu'on dort. On se sent paralysé, en fait, on se sent fixe. Alors, le réveil, ça m'arrive aussi. Ça aussi, ça m'arrive de mourir, ouais. Alors oui, du coup, le quatrième type de rêve représente les rêves qui sont motivés par la sorcellerie des esprits, des djinns, des illusions, et ils sont jugés comme vains. Y a-t-il une différence d'interprétation ou de solution entre les hommes et les femmes? Non, il n'y a aucune différence d'in-vie, il n'y en a strictement aucune. Alors, pour continuer sur ça, pourquoi est-ce que je vous dis qu'ils sont jugés comme vains? Parce qu'en fait, on explique dans le Coran que le pouvoir des djinns est donné par Dieu. Et en fait, les djinns n'ont réellement aucun pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir là, et c'est pour ça qu'on considère ces rêves-là comme vains. Et ces rêves-là comme étant seulement des illusions et quelque chose qu'on peut contrer. Et qu'il ne faut pas avoir peur, justement. Le cinquième type de rêve est un rêve montré par Satan de A à Z et on ne le considère pas comme un rêve, généralement. C'est ce qui pourrait s'apparenter à juste voir des formes dans la nuit et au final revoir des choses horribles, typiquement essayer d'avoir une vision sur l'enfer. Et enfin, de quelque chose, on pourrait s'imaginer l'enfer. C'est un rêve qui est donné par Satan, mais qui ne veut pas forcément dire qu'on va aller en enfer, qui est juste un rêve, un piège, en fait, un test. Le sixième type est conduit par son propre esprit et son propre désir lorsqu'il est confus ou stressé. Vous savez, je le sais moi personnellement, j'ai mon oral du bac, justement, demain, j'ai pas encore terminé de le faire. Eh bien, ce qu'on peut faire, ce que ça arrive justement avec le stress, qu'on commence à avoir des cauchemars, qu'on se voit typiquement, si jamais j'ai un oral demain, que je me vois en face dans mes rêves d'un jury et que ce jury-là, je n'arrive pas à répondre à des questions, etc., etc. C'est un rêve qui est causé par le stress. Alors, le septième type de rêve maintenant, et le septième et le dernier type de rêve de Satan, en tout cas les rêves négatifs. C'est celui qui est causé par la douleur, la souffrance d'une maladie physique. Typiquement, je sais pas, moi, je me suis fait mal au pied. J'ai énormément mal au pied, je dors, et dans mon rêve, je n'arrive plus à marcher parce que justement, j'ai mal au pied, quoi. Alors, peut-être que c'est aussi le cas pour la réalité, mais dans mon rêve, ça peut être une hyperbole, ça peut être exagéré. Donc, c'est ça, voici le septième type, justement, de rêve de Satan. Et nous allons passer maintenant aux rêves positifs. Les rêves positifs qu'on appelle aussi les vrais rêves. Alors, ces derniers, ce sont... j'ai reçu un... consiste à montrer une image en plus sonore. C'est vrai que l'influence... Oui, alors justement, ça en fait partie, ça, justement, comment ça s'appelle de ces rêves-là. Ces rêves-là, Gizmo, que tu viens d'expliquer, ils ne sont pas forcément négatifs ni positifs. Ça fait partie du troisième type de rêve que j'ai dit, qui était... Alors, je vais te rappeler ça... C'est la troisième catégorie comprend les rêves qui reflètent les pensées personnelles de chacun. C'était l'exemple que je vous avais donné juste avant. Si jamais la personne a faim, elle va se voir en train de manger ou de vomir, etc., etc. Et c'est de ce type-là. Dans ce cas-là, c'est des rêves qui ne sont pas forcément commandés par Dieu. Ce ne sont pas des messages spécifiques, ni par Dieu, ni de Satan. Ce sont des rêves qui sont imaginés par l'esprit intérieur de l'être humain lui-même. Pas considérés comme étant positifs ou négatifs. Personne.
Ah.
Ok, de retour, j'ai été déconnecté apparemment.
Ok.
Ok, est-ce que... Ouais, ok, donc là, vous m'entendez. Les vrais rêves, maintenant. Dans ces rêves, on peut se voir dans un état de sérénité et de paix. On peut porter également un beau vêtement ou manger une nourriture saine et appétissante. Le cher Abdul Ghani Nebulsi a divisé les vrais rêves en 5 catégories. Donc ce cher-là qui était spécialisé de base dans l'interprétation des rêves, mais aussi dans la logique. Alors qu'il y a la logique étant une des spécialités que j'ai, l'interprétation des rêves n'étant pas encore une fois une de mes spécialités, mais étant juste un sujet qui me passionne et auquel j'ai lu beaucoup de livres. Je précise juste, les rêves dont on va parler actuellement, ça n'a pas été explicitement dit dans le Coran. C'est descendu d'une interprétation justement du Coran, selon la sourate numéro 12, le verset numéro 6, ou la sourate Yusuf, où on affirme justement que, enfin où Dieu affirme en tout cas, qu'il a donné aux hommes la possibilité d'interpréter les histoires, et dans le contexte, cela voulait dire d'interpréter les rêves. Alors Yusuf en français, c'est le prophète, enfin en français, c'est le prophète Joseph. Alors juste 2 secondes, je vais juste demander à des gens d'arrêter de m'appeler. Ok, alors de retour, voilà. Je commence. Le premier rêve, c'est une vision claire d'une personne véridique qui se déroule exactement comme on le voit dans son rêve. C'est le type de rêve qui est considéré comme représentant l'une des 46 branches de la prophétie, comme expliqué avant. Et notamment, par exemple, le rêve du prophète entrant à la Mecque ou le rêve du prophète Abraham qui sacrifie son fils. Je pense que peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire en fait de l'Aïd. Vous savez, lorsqu'on sacrifie le mouton, nous les musulmans, c'est parce que le prophète Abraham avait rêvé qu'il devait sacrifier son fils. Et au final, à la dernière minute, Dieu lui a dit « Laisse ton fils en vie, je te passe un mouton, sacrifie le mouton à la place. » D'ailleurs, un interprète des rêves a un jour dit « Heureux celui qui voit un rêve vrai, car ils viennent directement de Dieu Tout-Puissant et sans intermédiaire. » C'est un message en quelque sorte. Cet interprète-là, c'est Ibn Sirin, c'est le même qui a écrit le dictionnaire des rêves que je vous enverrai à la fin de cette présentation. La deuxième catégorie comprend un avertissement direct ou une réprimande de Dieu Tout-Puissant. Le prophète a dit un jour, « Le meilleur des rêves est celui où tu vois ton Seigneur, ou ton prophète, ou tes parents musulmans. » Quelqu'un a demandé d'ailleurs, « Ô messager de Dieu, peut-on voir son Seigneur ?» Et le prophète répond, « Le roi représente Dieu, et le Dieu est le roi dans le rêve de quelqu'un. » Petite précision, en tout cas. Ouais, voilà, c'est de ça dont je parle, Melk. Alors, juste petite précision, avant même de répondre à ta question, Hakwan. Il y a quelque chose qui est dit dans le Coran, qui est dit dans un des hadiths, de Sahih Bukhari, donc un des hadiths qui sont authentifiés. Hadith, encore une fois, donc les actions, les dires du prophète. Si jamais un d'entre vous pense voir le prophète dans un de ses rêves, eh bien, c'est qu'il a vu le vrai prophète dans un de ses rêves et que c'était un vrai rêve. Et c'est ce qu'on dit, c'est que personne n'est capable de prendre l'identité du prophète dans un rêve. Et si quelqu'un dit qu'il est le prophète dans le rêve, alors ça sera le prophète. Une petite anecdote, en tout cas quelque chose d'intéressant. Alors Hakwan, un rêve prémonitoire est considéré de quelle manière? Hakwan, le rêve prémonitoire, il est considéré d'une manière... je vais en parler pour Ali. Hakwan, le rêve prémonitoire est considéré d'une manière positive parce qu'en fait c'est une sorte de vision qui nous permet de dire comment agir justement pour le futur. C'est un rappel. C'est de dire typiquement la fin du monde arrive, alors fais des bonnes actions, respecte tes parents, donne la charité, va faire ta prière, parce qu'à un moment ou un autre, tout va partir d'un coup et là tu ne seras pas prêt. En fait, c'est une sorte de rappel, un rappel de foi qui permet justement aux musulmans, mais plus généralement à tout le monde, de faire des bonnes actions, en tout cas aux croyants de toutes les religions, parce qu'au final, un petit message de paix, mais chrétiens, juifs ou musulmans, on est tous frères, tous cousins et on a tous le même Dieu. Alors, Prali, y a-t-il une interprétation pour les rêves lucides Hadzak? Il n'a pas forcément d'interprétation pour les rêves lucides. Par contre, ce qu'on dit, c'est que celui qui est capable de faire un rêve lucide, c'est quelqu'un qui a soit une belle foi, donc quelqu'un qui y croit beaucoup, soit c'est quelqu'un qui a justement une clarté d'esprit. Et c'est quelqu'un donc d'intelligent, de très intelligent et surtout de logique, qui arrive à discerner le faux du vrai, qui arrive à discerner le réel du non réel. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous savez, pour essayer de faire des rêves lucides, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit le matin ce dont on a rêvé, justement pour s'entraîner à faire la discernation entre le faux du vrai, entre le réel du non réel, pour voir la différence. Alors, je vous ai parlé de la deuxième catégorie. La troisième catégorie, maintenant, c'est un rêve qui vous est montré par l'ange des rêves. Alors, vous savez, il y a plusieurs types d'anges, et il y a aussi l'ange des rêves qui s'appelle Siddiqun. Cet ange béni peut entrer dans le rêve de quelqu'un et, avec la permission de Dieu, révéler une partie de ce que Dieu Tout-Puissant lui a enseigné ou faire connaître à partir de ses écrits dans la tablette préservée. La tablette préservée en arabe s'appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Elle existe également dans les autres religions. Hein. En tout cas, dans l'islam, c'est plus. On n'y a pas forcément accès, mais c'est surtout une suite d'instructions en fait. C'est un peu comme. On va dire, bon, c'est pas le cas, mais on va dire à peu près comme les commandements, en fait, ce sont des petites inscriptions, ce sont des petits textes que les anges ont reçus justement pour apprendre à agir. Et ce type de rêve-là, en fait, il est généralement la raison pour laquelle, en tout cas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi personnellement, oui, et je dis pas ça seulement parce que je fais ma présentation, il m'arrive par exemple de faire des exercices de mathématiques, parce que par exemple, j'ai une évaluation le lendemain. Pour autant, je n'arrive pas à comprendre en faisant mes exercices de mathématiques. Donc, à un moment ou à un autre, j'ai travaillé, j'abandonne. Et puis, le matin, quand je me réveille, eh bien, j'ai compris. Pour autant, je n'ai pas travaillé pendant que je dors. Mais en fait, mon cerveau a assimilé et on interprète justement cela, on interprète ce rêve, on interprète cette capacité à avoir compris sans pour autant avoir travaillé pendant ses rêves, bien qu'on ait travaillé avant, à justement l'ange Siddiqun qui viendrait nous donner la connaissance que lui connaît. Et qui nous offre cette connaissance en guise de récompense pour notre foi, ou en guise justement de preuve pour la foi. C'est une manière de se dire, regarde, tu as essayé de travailler, tu n'as pas compris, moi je te donne cette connaissance, je t'offre cette connaissance, donc rejoins la religion, ou bien ça peut être, tu es quelqu'un de très pieux, et donc pour te remercier, je vais essayer de te donner, je vais essayer de te donner justement un cadeau qui est la connaissance que j'ai, mais que tu n'as pas, et qu'à partir de maintenant tu peux avoir. La quatrième catégorie représente les rêves d'allégorie, d'apothéose ou de symboles que l'on peut déchiffrer. Ce type de rêve vient par l'intermédiaire de bons esprits ou d'âmes bénies. Par exemple, si un ange vient et dit ta femme veut t'empoisonner par la main de ton ami un tel, n'importe lequel, dans ce cas, l'ange ou l'âme bénie a indirectement indiqué que l'ami a une liaison secrète avec sa femme, car l'adultère nécessite un stratagème caché. Et le poison connote notamment le déguisement. Parce que vous savez, quand on veut empoisonner quelqu'un, ce qu'on fait, c'est qu'on met par exemple du poison dans un jus d'orange. On va essayer de déguiser le poison. Et c'est pour ça justement que je vous disais qu'il fallait avoir une vision philosophique sur l'interprétation des rêves, parce que parfois ce n'est pas le sens premier qu'on va prendre, mais c'est plus l'allégorie qui en découle. Le poison n'est pas juste la mort, c'est surtout le déguisement. La cinquième catégorie de rêve véridique, cinquième et dernière si je m'en rappelle bien, est celle qui inclut un véritable témoin. Dans celui-ci, un tel témoin manifeste une présence dominante dans le rêve, comme se voir battre un tambour ou jouer d'un instrument à cordes à l'intérieur d'une mosquée ou d'un lieu de culte. Dans ce cas-là, cela peut signifier se repentir en public de ses péchés. Par témoin, j'entends qu'il faut avoir quelqu'un qui observe justement ce qu'on va faire après. L'élément témoin représente ici justement le contraire de ce que la personne voit, comme se voir danser ou lire le Coran à l'intérieur d'un bain. Vous savez, on dit souvent, en tout cas nous dans la religion musulmane, que si quelqu'un se voit lire le Coran dans un bain lors de son rêve, donc par bain j'entends pas une baignoire mais j'entends les bains publics, cela signifie qu'il sera impliqué dans un scandale ou une polémique et que sa réputation sera souillée. Pourquoi? Parce que le bain est un lieu public. Où la vie privée d'une personne peut être violée parce qu'on se voit tout nu, etc., s'il ne fait pas attention à sa conduite dans ce lieu. Et donc voilà quoi, le bain, c'est un endroit public par excellence. Je vois que Halifax, alors je viens de parler à Melk juste après, je vois que Halifax a parlé justement des pseudosciences et tout, ça me permet justement de repréciser pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on parle ici de croyances. Scientifiquement, il n'y a pas de preuves. Les musulmans, moi personnellement, je considère que c'est vrai, mais on parle ici, en tout cas, dans notre présentation, on parle ici de croyances. Vous avez tout à fait le droit d'y croire ou de ne pas y croire, mais je pense que parfois il peut être intéressant d'essayer d'adopter une vision un peu moins scientifique, on va dire, pour essayer de trouver justement une réponse à des questions que la science n'arriverait pas à répondre, typiquement pour les rêves. Qu'en est-il de voir en rêve ou de parler à des personnes qui ne sont plus en vie? Alors, ça signifie deux choses. La première chose, c'est l'affection. Typiquement, si cette personne qui n'est plus en vie est quelqu'un de votre famille, par exemple, généralement, c'est un signe positif. Je vais un peu m'abuser, mais je vais dire dans 90%, c'est un signe positif. Si vous voyez que cette personne-là qui n'est plus en vie, pour autant, elle vous communique avec vous lors de vos rêves, et que c'est par exemple votre père ou votre mère, votre soeur, votre frère ou quelque chose comme ça, c'est un signe pour vous dire que cette personne-là est au paradis et que cette personne-là vous envoie un message parce qu'elle a la possibilité de le faire au paradis. Et donc, au final, c'est quelque chose que vous devez considérer comme étant positif, parce que ça veut dire que votre personne à qui vous parlez, votre interlocuteur, votre bon interlocuteur se trouve actuellement dans le paradis. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est peut-être considéré comme un avertissement, et de se dire « ne fais pas comme moi ». Alors, c'est rare, en tout cas, des textes que j'ai pu lire, c'est rare, cette interprétation-là, c'est plus souvent l'interprétation que je vous ai donnée juste avant. Mais cette interprétation-là existe aussi, donc il faut la prendre en compte. Et parfois, ce n'est juste par amour qu'on y pense, et c'est au final un signe d'un chagrin. Et c'est une manière au final de pouvoir se dire que cette personne reste avec nous au fond de son cœur. Et donc, à pas se dire « oh là là !» Elle n'est plus ici, la personne à qui je parle n'est plus là, il faut se dire, la personne à qui je parle est encore là, et je la vois dans mes rêves. Au final, de ne pas l'oublier. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Melk, mais pour résumer la réponse à ta question, soit c'est que cette personne-là est au paradis, et que donc elle t'envoie un message, soit c'est que c'était une personne qui t'envoie un avertissement en disant, ne fais pas comme moi, soit c'est par chagrin. De rêve, il faut savoir que le sol est différent d'une terre à l'autre. Alors, car chaque sol est arrosé par une qualité d'eau différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interprétation des rêves peut varier d'une terre à l'autre, donc d'un territoire à un autre territoire, d'une localisation géographique à une autre localisation géographique. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'interprétation des rêves requiert une connaissance concise qui doit être basée sur les fondements de sa religion, ses valeurs spirituelles intérieures, ses traditions morales et culturelles. Les rêves sont également influencés par les conditions atmosphériques de la terre et de la culture. Par exemple, si une personne qui vit dans un pays chaud voit de la neige ou de la grêle dans son rêve, cela signifie une hausse des prix ou une sécheresse. En revanche, si une personne vivant dans un pays froid voit de la neige, de la pluie ou de la grêle dans son rêve, cela signifie une bonne récolte et de la prospérité. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache justement à la rareté de la chose. L'interprète des rêves doit étudier chaque rêve en se basant sur les opinions religieuses, la logique et les idiomes, les facteurs cruciaux, les circonstances dictantes de ce qui est jugé correct, et il ne doit pas exprimer une opinion ferme. Lorsqu'on fait une interprétation des rêves, il est très très important justement de faire un syllogisme logique. Alors un syllogisme logique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est « je sais que, or je sais aussi, donc je peux t'affirmer ». Je sais que blablabla, or je sais aussi blablabla, donc je peux t'affirmer. Alors, il faut faire attention à avoir des bons principes. Par principe, j'entends les bases de son syllogisme. Alors ça, c'est tout un problème philosophique derrière. Mais en gros, si vous n'avez pas les bons principes, votre raisonnement logique peut être vrai, pour autant sans avoir les bons principes avant. Donc au final, votre réponse est fausse. Vous savez, c'est quand un professeur de mathématiques vous dit « bon raisonnement, mais réponse fausse », ou « bon raisonnement, mais pas avec les bonnes données ». Il est extrêmement important d'utiliser un syllogisme logique. Alors, question de Vincent Boulanger. Je viens d'une tradition chrétienne qui reconnaît qu'un rêve peut parfois être un message de Dieu, mais plutôt de manière exceptionnelle. Est-ce que tu considères que tous les rêves sont un message de Dieu/Satan? Alors non, comme expliqué, il y a trois types de rêves, et justement, les messages de Dieu, Satan, ne sont pas forcément les rêves les plus fréquents étant les rêves personnels, ce que j'avais expliqué hein, dans les trois types de rêves, et ce sont des rêves qui, justement, sont basés sur les expériences et qui, entre guillemets, résument notre journée ou résument notre vie antérieure. Notre vie antérieure, j'entends pas bien évidemment une vie avant la nôtre, j'entends ce que j'ai fait avant-hier, avant-avant-hier, etc., etc. Alors, je vais un peu plus développer sur les connaissances que doit avoir l'interprète de rêve. Il doit connaître les références coraniques et les interprétations coraniques. Alors, j'en profite. Par les interprétations coraniques, il faut aussi, en tout cas pour les musulmans, qu'ils connaissent absolument les évangiles ainsi que la Torah. Alors, pourquoi? Parce qu'un musulman est obligé de croire en tout ce qui est, en toutes les révélations qui sont descendues auparavant. Et donc, quand je dis les références coraniques, je parle très également de la Bible et de la Torah. Enfin, en tout cas de la Bible, de certaines parties de la Bible. Alors, il faut aussi que l'interprète connaissent les paroles des prophètes. Pas forcément du prophète Mahomet chez les musulmans, mais de tous les autres prophètes. Typiquement, le prophète Joseph, par exemple, Youssouf, était, en tout cas dans la religion musulmane, un prophète qui avait justement ce pouvoir d'interpréter les rêves et qui expliquait à l'époque ses camarades de détenus, parce qu'il était emprisonné en fait justement en Égypte, il leur expliquait comment faire pour interpréter ses rêves. Ça c'est ce qui est écrit, ce que Mec a envoyé en la sourate 12, le verset 6, le verset 14, le verset 15. Alors au revoir à toi Olifax. Et donc voilà quoi, il faut connaître absolument les paroles de tous les prophètes. Alors Prali, les rêves qui découlent d'imaginaires ou livres, fin alternatifs ou références, font aussi partie des rêves personnels du coup. Alors est-ce que par livre tu entends les livres religieux ou est-ce que tu entends les livres en général? Bah, par exemple, que tu as lu un livre, je sais pas moi, tu as lu Le Rouge et le Noir et tu vas rêver de Julien Sorel en train de faire quelque chose. Ou est-ce que tu parles plus de tout ce qui est rêve religieux, enfin livre religieux, le Coran, la Bible et la Torah par exemple. Enfin, les Yajurveda et tous les autres textes religieux qui existent. Non, assez rare, je m'en souviens pas dans mes rêves. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, mais je pense pas que je l'ai bien comprise. Si par rêve, tu entends les rêves qui ont des références coraniques, alors, généralement, ce n'est pas des messages de Dieu, ce sont juste des rêves qui sont personnels, parfois parce qu'on a lu justement le Coran, qu'on a lu la Bible, qu'on a lu la Torah, et du coup, on se rappelle de cela. Et ça peut aussi être des messages de Dieu, mais plus... quand on parle de tout ce qui est l'eschatologie, donc l'étude de la fin du monde, par exemple, hein, généralement c'est ça les messages de Dieu. Ce n'est pas forcément les références coraniques qu'on peut avoir. Je peux rêver d'un certain épisode dans le Coran, typiquement je peux rêver d'une guerre qui s'est passée ou quelque chose du genre, ça ne sera pas forcément un message de Dieu, ce sera juste le fait que j'ai lu cette chose-là et que donc j'y rêve justement en dormant. Donc ça peut faire partie des rêves personnels, même si généralement les rêves religieux qui sont envoyés par un dieu ou par des anges, c'est plus tout ce qui touche à la fin du monde après. L'interprète, il doit aussi connaître les traditions prophétiques, les récits des prophètes et la sagesse qu'ils ont transmis à leurs disciples en interprétant leurs rêves, hein, encore une fois comme Youssouf. Et la conclusion qu'ils ont eux-mêmes tirée de cette expérience, cette fois-ci comme Abraham qui passe d'égorger son fils à égorger un mouton. Un interprète raffiné dans cet art, il doit aussi être capable de cultiver l'essence des normes sociales, l'histoire, les fables, la poésie, les proverbes, les langues et l'étymologie des mots. Mais aussi les synonymes, l'homogénéité, la contrariété, etc. etc., etc. Vous savez, il y a plusieurs choses en fait qui peuvent changer. Rêver par exemple d'une langue dans le sens langue, dans le sens l'organe, ou rêver d'une langue dans le sens la parole, ça peut sembler stupide, mais c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir faire la différence entre les synonymes, il faut savoir faire la différence entre les mots et connaître ces mots-là pour justement être capable de comprendre ce que nous dit la personne qui souhaite avoir une interprétation de ses rêves. Et donc, il est nécessaire que l'interpréteur ait une connaissance du vocabulaire et une connaissance de quelque chose de bien précise. Je continue sur les qualités qu'il doit avoir. Il doit également être une personne honnête et respectée. Il doit faire attention à la façon dont il gagne sa vie, et gagner sa vie d'une manière, comme on dit, halal, donc en gros d'une manière saine et pure. Typiquement, il ne peut pas gagner sa vie en faisant du trafic de drogue, il ne peut pas gagner sa vie en maniant des intérêts, par exemple, il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut pas gagner sa vie en allant tuer des gens ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il gagne sa vie d'une manière pure. Pourquoi ? Pour que ses pensées soient pures. Évidemment, il fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit, parce que vous savez, il faut avoir, si on veut des bonnes pensées, il faut bien manger, et ça, je pense que c'est prouvé scientifiquement. Je suis pas sûr, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Alors, Black Jason, et si on fait des rêves dans lesquels on voit la guerre, la souffrance, la famine pendant une très longue période, genre un mois et bizarrement, on a l'impression que le rêve, c'est une continuité. Alors, est-ce que tu veux dire que, par exemple, tous les soirs, tu rêves de la même chose? Ou est-ce que tu veux dire que tu dors un soir, mais tu vois une guerre qui dure un mois? Que j'ai pas très très bien compris.
Je crois plutôt qu'il veut y faire mention de... Il continue l'histoire la nuit d'après. Ça continue ce qu'il avait rêvé la fois d'avant.
Ok. Alors, si tu continues l'histoire de la nuit d'après, et si jamais tu parles notamment... tous les soirs, j'aurais dit la même chose, et c'est une continuité. Ok. Alors généralement, ça peut soit être une obsession passionnelle, soit ça peut être un signe de Dieu. Tu sais, quand tu parles par exemple de la guerre, c'est quelque chose qui avait déjà été expliqué par Ibn Sirin. C'est quelqu'un qui est venu lui demander, il a dit « Oh Mohamed », il s'appelait Mohamed, pas le prophète mais Ibn Sirin, il lui a dit « Oh Mohamed, chaque fois que je dors, je rêve et je vois les gens souffrir lors d'une guerre contre des milliers de personnes ». Et Ibn Sirin lui répondit « Tu es en train de rêver de la guerre contre Gog et Magog ». Alors, peut-être que ça n'en dit pas beaucoup pour certains, parce que c'est quelque chose dans la religion musulmane. On considère qu'à la fin du monde, il y aura des tribus du nom de Yajouj en arabe, en français Gog et Magog, qui existent aussi dans la Bible, qui vont être justement libérés sur Terre. Et alors, Gog et Magog, c'était une très bonne blague. Gog et Magog qui vont être libérés sur Terre et qui vont justement avoir la misère sur Terre, et on dit d'ailleurs que pour chaque humain il y aura 999 Gog et Magog, hein, Gog et Magog étant deux tribus différentes, il y aura 999 membres de ces tribus, et généralement quand on pense d'une guerre qui dure longtemps, on parle soit de cette guerre là, soit des grandes guerres qui vont arriver après, comme celle du Dajjal par exemple, donc à la fin du monde, quand on aura l'arrivée du faux messie, etc. Et c'est ce qu'on considère comme étant une grande guerre. Si par contre tu rêves de quelque chose en général, donc la même chose, mais que tu rêves passionnellement, enfin que tu rêves continuellement, c'est peut-être une passion. Typiquement, je suis amoureux, je fais que de rêver de la même personne tous les soirs, c'est une passion. C'est un rêve personnel, non pas un rêve religieux, et ça n'a rien de spécial, ce n'est pas quelque chose de positif ou de négatif. D'ailleurs, je tiens à préciser parce que j'ai oublié, vous savez, donc, dans beaucoup de religions, on parle des bonnes actions et des mauvaises actions. Il faut prendre en compte que toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir dans ses rêves, par exemple quand on parle de relations sexuelles avec quelqu'un avec qui on ne serait pas marié, etc., on n'est pas considéré comme fautif de ses rêves. Les rêves, en fait, ne vont pas nous donner ce qu'on appelle les sayyi'at, donc les points négatifs, même si, pour autant, on pense à quelque chose que, si établi dans la vraie vie, nous donnerait des points négatifs. Je peux rêver d'avoir tué quelqu'un, mais par contre, je vais pas avoir de points négatifs si jamais je rêve de cela, parce que je ne suis pas responsable de mes rêves, même s'il s'agit d'un rêve personnel. Alors... Je continue sur là où j'en étais avant, sur encore une fois les qualités, les connaissances que doit avoir des rêves. Donc, outre les références religieuses, un interprète des rêves doit également connaître les catégories de base qui relient les éléments du rêve. Petit exemple pour ceux qui ne comprennent pas, il doit savoir que le blé, l'orge, la farine, le miel, le lait, la laine, le fer, le sel, la terre, etc. représentent l'argent. Il doit aussi savoir qu'une belette, un coyote, un lion, un loup, une corde, un arbre, un oiseau, une bête, etc. représentent des hommes. Un peu comme dans les fables de La Fontaine, typiquement. Qu'une selle ou qu'un lit, des oiseaux femelles représentent des femmes. Et qu'une cruche, un oreiller, un bol, un bassin représentent des serviteurs. Il doit également savoir que tout ce qui n'a pas de fin dans un rêve n'est pas atteignable. Tandis que quitter un bateau dans un rêve signifie descendre en grade, typiquement. Si un jour vous avez l'impression que quitter un bateau suffit de descendre en grade et vous vous demandez pourquoi, enfin, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est cette interprétation dans l'islam. Dans la sourate Hud, H-U-D, il y a l'histoire justement du prophète Nuh, donc Noé, qui avait prévu justement le déluge et qui a dit à son fils de venir le rejoindre, qui a tout fait pour dire à son fils de venir le rejoindre sur un bateau. Et son fils, qui en tout cas les interprètes islamiques considèrent qu'il faisait sa crise d'adolescence, a tout fait en sorte pour ne pas aller avec son père parce qu'il voulait rester sur terre, continuer à subvenir à ses plaisirs, et lui a dit non, t'inquiète pas, je vais me cacher en haut d'une montagne, je vais me cacher dans une grotte et je vais survivre au déluge. Et au final, Dieu lui a répondu, je comprends que ton fils est de ta famille, mais si ton fils ne respecte pas les règles que tu lui as données alors que tu es prophète de Dieu, alors sache qu'il fera partie des non-croyants et qu'il sera puni justement pour ces actes-là. C'est pour ça qu'on considère que descendre d'un bateau signifie descendre d'un grade, parce qu'il est passé justement du croyant à celui qui ne croyait pas, et non pas celui qui ne croyait pas pour une raison précise, mais ceux qui ne croyaient pas pour aucune raison spécifique et qui ne croyaient pas juste par crise d'adolescence. Qui dans la Sourate Hud, H-U-D. Je vais vous parler maintenant du vide de sujet, en fait. Ce sont l'interprétation et les types d'interprétation. Donc il y a deux types d'interprétation, et là on va rentrer dans ce que j'aime bien, qui est à peu près la logique, la philosophie. La première, c'est l'interprétation par contraposition. Certains rêves sont interprétés comme signifiant le contraire lorsque les éléments sont liés. Un petit exemple, en fait, cette tradition elle s'appuie sur des exemples que quand on pleure, c'est pas forcément parce qu'on est triste, mais c'est aussi parce qu'on est extrêmement heureux. Ou bien parfois on rit face à l'adversité. On peut aussi voir par exemple le soleil et la lune se battre et l'interpréter comme un combat entre deux personnes. Ou encore, on peut appeler une inondation un ennemi et un ennemi une inondation. Car dans les deux cas, l'inondation et l'ennemi sont destructeurs. Ou bien, lorsqu'on mange une figue en rêve, cela peut signifier le regret. Et le regret pour signifier manger une figue. Parce que le figuier est maudit dans certaines traditions. Ou lorsqu'on se voit mort en rêve, même s'il n'a pas l'apparence d'un mort pour signifier des pertes ou la destruction d'une partie de sa maison. On peut aussi interpréter des sauterelles comme des guerriers et les guerriers comme des sauterelles à cause de la destruction qu'ils causent en fait tous les deux à une terre. Vous savez, un guerrier quand il va attaquer un pays ou quelque chose comme ça, généralement ils détruisent les récoltes et c'est ce que les sauterelles font aussi en quelque sorte. Il y a plusieurs invasions de sauterelles. D'ailleurs, même en Arabie Saoudite, il y en avait une il y a de cela un peu longtemps, je crois 2 ans, 3 ans. Il faut que j'en peux pas à fact-checker parce que je ne suis pas sûr. Le deuxième type d'interprétation, donc là j'ai parlé de contraposition, c'est-à-dire une chose qui peut représenter un contraire ou un contraire qui peut représenter une chose, c'est l'interprétation par corrélation, la relativité et l'approximation. Comme précisé auparavant, c'est rare que les interprétations sont exactes, c'est compliqué d'interpréter un rêve. Rêve, ça s'interprète pas d'une manière 100% sûre, il y a toujours des erreurs. Et dans ce type d'interprétation, rire dans un rêve signifie le chagrin, tandis que sourire dans un rêve signifie la politesse et une conduite correcte. Pleurer, ce serait généralement interprété comme du bonheur, mais lorsqu'il est accompagné d'intonation ou de gémissement, cela signifie une calamité. Quant au fait de mettre de la graisse sur ses cheveux, les interprètes des rêves en déduisent la signification d'une parure, tandis que si elle coule sur le visage, ils l'appellent une hypocrisie, une flatterie, une adulation. Donc par graisse, j'entends des produits pour avoir des meilleurs cheveux. Et si jamais ces cheveux, si jamais ces produits-là coûtent justement sur le visage, c'est plus une hypocrisie, en fait, une flatterie. C'est plus une manière de dire j'ai un autre visage, je montre une autre facette de moi-même. Et donc je suis quelqu'un d'assez hypocrite. Quant au safran, vous savez, l'épice dans un rêve, il l'interprète comme étant une louange ou un éloge. Tandis que si sa couleur, la couleur du safran, se manifeste sur le corps ou les vêtements, il l'appelle une maladie. Pourquoi ? Parce que le safran, pour ceux qui ont déjà vu, ça ressemble parfois à des veines, on a l'impression, et du coup ça représente des organes du corps, et on peut considérer ça comme étant une maladie, par exemple. D'où le nom d'interprétation par approximation, parce que ça représente à peu près, ça ressemble à peu près, et donc on peut affirmer que c'est ce cas-là. Quant aux plumes, par exemple, les plumes dans un rêve, ils appellent en fait la richesse ou au confort. Mais par contre, lorsqu'on se voit voler avec des ailes, il l'interprète comme un voyage ou une ascension sociale, selon la hauteur à laquelle on se trouve dans son rêve. De même, si une personne se voit couper la main en rêve, et si elle se voit la porter, cela signifie avoir un frère ou un fils. Pourquoi ? Parce que généralement, on agit en même temps avec son fils ou son frère. Je précise, c'est pareil pour les femmes, filles ou sœurs. Tandis que par contre, si jamais elle perd sa main dans un rêve, et ça signifie plus une adversité ou la perte d'un frère ou d'un fils. Hein, donc si elle coupe sa main, c'est qu'elle partage. Par contre, si elle la perd, c'est une adversité. C'est qu'il y a une sorte de bataille en fait entre les deux personnes. Et puis bon, je continue. Hein. Si un malade se voit en rêve sortir de sa maison en silence, alors Gizmo, je vais répondre juste après. Si un malade se voit en rêve sortir de sa maison en silence, cela signifie sa mort et ses funérailles. Tandis que s'il parle en rêve, cela signifie qu'il va guérir de sa maladie. Alors, Gizmo, rire signifie un tel, la graisse signifie un tel, je dirais que c'est culturel. Si s'enduire de graisse dans mon pays signifie se mettre en avant et que dans le temps signifie user du berfuge, nos rêves sont les mêmes pourtant. Alors, justement, Gizmo, ce que j'ai précisé au début, c'est que souvent les rêves vont dépendre de la culture. Et par contre, alors je pense que j'ai été mal compris, mais sur la graisse, c'est pas le fait justement de mettre de la graisse dans ses cheveux qui change, c'est si tu mets de la graisse sur tes cheveux, ça signifie se mettre en avant. Par contre, si dans ton rêve tu vois que cette graisse va tomber de manière désordonnée sur ton visage, ça signifie que justement là c'est un mensonge, c'est une tromperie. Si c'est juste se mettre sa graisse dans les cheveux, hein, c'est quelque chose qui est totalement normal, et oui, ça signifie se mettre en avant. En fait, là, dans le message que tu viens d'envoyer, c'est deux rêves différents. Alors que moi, ce que j'ai précisé avant, c'est se mettre de la graisse dans ses cheveux et ensuite que cette graisse-là coule sur son visage. Je sais pas si ça répond à ta remarque, si oui ou si non. Eh bien, tu peux me le dire en message, j'y répondrai. Et pour le coup, moi, personnellement, j'ai fini avec le livre blanc. En tout cas, j'ai fini avec les présentations que je voulais... Enfin, j'ai fini avec les documents que je voulais vous donner, en tout cas, les présentations que je voulais vous dire. Si vous le souhaitez maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de vous montrer quelques extraits du dictionnaire. Et donc, que vous me balancez certains mots que vous avez. Par exemple, si vous avez rêvé d'un serpent. L'Invi. La tâche d'interprétation requérant apparemment de très nombreuses qualités, plurilinguisme, connaissance des textes sacrés de nombreuses religions, de l'étymologie. Y a-t-il jamais eu un interprète de rêve digne de ce nom ? Y a-t-il beaucoup de charlatans et comment sont-ils identifiés ou démis de leur fonction ? Y a-t-il eu des exemples de conséquences graves de misinterprétation des rêves ? Alors, première question, y a-t-il jamais eu un interprète digne de rêve de ce nom ? Dans la tradition musulmane, dans l'histoire musulmane, on parle souvent de Ibn Sirin, qui était considéré comme l'un des plus grands interprètes, justement. Donc, je vais vous envoyer sa page Wikipédia en 2 secondes.
Zach, pardon, je te coupe. Je vais en profiter rapidement pour relancer les bots d'enregistrement, quitte à ce qu'on passe aux questions. Ce sera plus facile à traiter par la suite, les fichiers audio. Ça marche ?
Ok, ouais, alors, pas de souci.
Quelques petites secondes de silence que je kick et que je réinvite les bots.